imaginez en effet un petit outil capable de modifier notre patrimoine génétique, de ressusciter une espèce disparue, encore de doper nos gènes, une méthode moléculaire qui permettrait par exemple de corriger chez l'homme une maladie génétique. Eh bien ce couteau suisse de la biologie moléculaire existe déjà, il est même en train de révolutionner la génétique. Son nom barbare est CRISPR-Cas9, il fait l'objet de publications dans les plus grandes revues scientifiques, il pourrait valoir un prix Nobel de médecine à ses découvreurs. Et c'est aujourd'hui donc le dossier de la tête au carré pour vous expliquer comment bricoler le vivant pour soigner, créer et optimiser le génome. Un bricolage qui pose aussi des questions éthiques, nous le verrons avec mes invités. Vos questions dès maintenant, vos messages, franceinter.fr et le mot-clé, la TAC. Notre système immunitaire qui n'en finit pas de livrer ses secrets et il est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, de nouvelles recherches montrent à quel point l'âge et le quotidien influencent nos défenses naturelles plus que les vaccins ou la génétique. On vous explique dans un instant à la une de la science.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Estelle Honora.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, le bricolage du vivant, donc avec un outil génétique révolutionnaire qui fait beaucoup, beaucoup parler de lui. C'est le dossier de l'émission cet après-midi avec mes invités, le professeur d'immunologie Alain Fischer et la généticienne Catherine Bourguin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alain Fischer, le nom de cet outil moléculaire est moche, c'est CRISPR-Cas9, mais il a totalement bouleversé l'histoire déjà de la génétique. Il se passe quelque chose de très important dans ce domaine actuellement, hein ?
Effectivement, ce sont une paire de ciseaux moléculaires qu'on peut utiliser très précisément pour modifier l'ADN. Donc cette affaire mérite d'en s'y intéresser et de l'utiliser pour nous scientifiques, bien évidemment.
Ça paraît tellement simple en vous entendant. C'est aussi facile que ça d'utiliser cette paire de ciseaux ?
Relativement simple.
Ouais, il y a quand même des petits couacs de temps en temps, on le verra. Catherine Bourguin, c'est urgent justement d'évaluer éthiquement dès maintenant toutes les possibilités qui sont offertes par cette nouvelle technique ?
Ben oui, parce que c'est une technique, comme on vient de le dire, qui s'est développée extrêmement rapidement, donc on a encore très peu de recul sur les conséquences qu'elle pourra avoir. Et puis en plus, c'est une technique qui s'applique dans un grand nombre de domaines.
Oui.
L'humain, bien sûr, mais aussi les plantes et aussi les animaux, les bactéries, etc. Donc finalement, ça touche à beaucoup de questions fondamentales et donc, bien sûr, il faut de la réflexion éthique.
Ça nous fait penser aux OGM, tout simplement, c'est puisqu'on bricole le vivant.
Ah ben, c'est tout à fait c'est dans la lignée des OGM et de la thérapie génique et de plein d'autres façons qu'on a de bricoler. Coller l'ADN depuis longtemps.
Allez, on se retrouve dans un instant pour découvrir donc ensemble toutes ces possibilités offertes avec ce bricolage de l'ADN et j'attends vos questions dès maintenant. Élever un enfant a plus d'impact sur nos défenses immunitaires qu'un vaccin ou qu'une gastro-entérite. Les secrets de la plasticité immunitaire, donc à la une de la science aujourd'hui, avec des chercheurs anglais et belges qui ont suivi pendant 3 ans 670 patients âgés de 2 à 80 ans pour tenter donc de comprendre ces variations de nos défenses naturelles. Les résultats publiés mardi dans la revue Nature sont surprenants. Et pour les présenter, nous sommes en ligne avec vous depuis l'Angleterre. Alexandre Bignon, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes immunologiste, chercheur à l'Institut Babraham de Cambridge.
C'est ça.
Et dans ce studio.
Babraham Institute.
Voilà.
Et dans ce Cambridge.
Merci. Et dans ce studio, notre médecin généraliste Dominique Dupagne.
Bonjour Mathieu.
Hello Dominique. Alexandre Bignon, c'est la première fois que ce genre d'étude est menée avec autant de finesse. Quel était le but de ces travaux exactement ?
Alors, les buts de ces travaux, c'était d'étudier sur une large cohorte d'individus sains, comme vous l'avez rappelé, sur une période de 3 ans, les facteurs non génétiques qui étaient capables de moduler notre système immunitaire.
Et comment fait-on pour suivre ces facteurs précisément ?
Alors, en fait, c'est l'équipe, là, pour le coup, en Belgique, qui a, pendant des périodes de 6 mois, qui a prélevé un prélèvement sanguin, et ils ont regardé 54 paramètres qui caractérisent notre système immunitaire.
Mmh. Dominique Dupagne, beaucoup de choses dans cette étude. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé à la lecture des résultats ?
La confirmation de choses qu'on savait déjà un petit peu, c'est que les deux grands piliers de l'immunité, c'est d'une part la diversité. On voit qu'on est différent et qu'il faut habiter ensemble pour se rapprocher. C'est ce qui fait le plus de rapprochement. Et que d'autre part, on est extrêmement adaptable sur le plan immunitaire, puisque en permanence, on s'adapte à son milieu pour pouvoir anticiper les problèmes.
Alexandre Bignon, ça veut dire que là, vous êtes vraiment sorti de l'organisme pour voir comment l'environnement pouvait justement influencer notre système immunitaire ?
Tout à fait, tout à fait. Quand on est scientifique et quand on observe des phénomènes biologiques, on est toujours tenté de se demander qu'est-ce qui est de la part de la génétique, qu'est-ce que la part de l'environnement. Et donc là, on s'est vraiment rendu compte, quand on comparait le système immunitaire de deux individus, et que ces deux individus étaient en couple, cohabitaient et avaient au moins un enfant, eh bien on avait une convergence de leur système immunitaire vers un point d'équilibre Pour faire plus simple, notre système immunitaire est plus proche du système immunitaire de notre conjoint que d'un individu lambda.
C'est formidable, ça, non, de le penser,
oui, en tout cas.
Mais c'est très beau, je trouve, qu'on puisse s'influencer à ce point.
On ne partage pas que de l'amour.
Mais c'est ça, c'est du biologique aussi, c'est du concret.
Exactement.
Est-ce qu'on sait, Alexandre Bignon, si c'est bon pour la santé ou pas, au final?
Alors, dans cette étude, justement, il n'y a aucun jugement de valeur. C'est-à-dire que ce n'est ni positif ni négatif, c'est un fait que l'on a observé, mais il n'y a aucun jugement de valeur. Il y a des paramètres qui peuvent être bons et d'autres mauvais.
On peut imaginer les raisons de ce rapprochement immunitaire quand on vit ensemble avec un enfant ?
Eh bien, tout à fait. Alors déjà, ce qu'a montré cette étude, le point important, c'est vraiment d'abord le rôle de l'environnement. Hein, l'environnement, et en particulier l'environnement que l'on partage avec son conjoint, qui influence de façon significative notre système immunitaire. Alors l'environnement, c'est au sens large, c'est-à-dire qu'on a notre habitation, notre mode de vie, notre mode d'alimentation, et puis l'enfant. L'enfant qui, dans cette trilogie familiale parent-enfant, eh bien il faut le considérer comme un vecteur qui va être capable de pouvoir moduler de façon similaire le système immunitaire de ses parents. Et dans ce contexte, en fait, une hypothèse fédératrice, au vu de la littérature scientifique actuelle, eh bien, c'est le partage du microbiote entre ces différents individus, parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré, notamment une très jolie dans Science, que des membres d'une même famille avaient un microbiote qui était similaire. Alors, pour vos auditeurs, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent soit notre tractus digestif ou encore la peau. Et en fait, on sait qu'il y a un dialogue qui se fait entre ce microbiote et le système immunitaire. Et il est tentant de spéculer que ce rapprochement du microbiote entre les individus pourrait influencer notre système immunitaire.
Dominique Dupagne.
C'est forcément bien, parce que c'est ce qui a permis aux primates de survivre depuis plusieurs millions d'années. Donc en fait, le vivant qu'on connaît, c'est le vivant qui a survécu. Donc il a été validé finalement par des millions d'années d'évolution. Moi, ce qui me frappe au-delà du problème purement médical, c'est qu'en fait, les deux piliers dont je vous parlais, diversité et adaptabilité, c'est pas très fréquent dans notre organisation sociale. C'est-à-dire qu'on essaye toujours d'uniformiser les choses, les gens doivent être toujours pareils. Alors ce qui permet de survivre, c'est d'être divers. Et on sait par exemple qu'il y a des gens qui sont naturellement résistants au sida. Et le vivant a survécu parce que souvent, face à une crise infectieuse, il y avait des mutants, des gens un peu différents qui résistaient. Puis l'autre chose, c'est que si un jour le système immunitaire, par le passé, a fonctionné comme fonctionne le militaire, c'est-à-dire prévoir ses armes en fonction des guerres passées, et il n'y a pas eu de ligne Maginot parce que ce vivant-là n'a pas survécu. Le vivant qui survit, c'est un vivant qui est capable, très rapidement, après avoir mis des lignes, des défenses de première ligne qui, elles, sont non spécifiques, qui est capable de fabriquer le plus vite possible une défense spécifique face à l'infection. Et quand on compare ça avec notre réalisation sociale, où on veut toujours planifier, organiser à l'avance et ne pas tenir compte de la réalité du terrain, ce qui est en fait l'environnement, eh bien c'est un peu surprenant de voir qu'on emploie des méthodes dans nos structures gouvernantes, par exemple, qui sont totalement opposées à ce qui a marché dans le vivant. Moi, ça me fascine beaucoup.
Oui, donc il faudrait plus s'inspirer en tout cas de l'évolution dans le vivant. Et Alain Fischer, une réaction à ce que dit Dominique Dupagne?
Alors, à la réaction à sa dernière phrase, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ça nous entraîne sur le terrain de la sociobiologie, qui à mon avis est un terrain glissant, et je ne suis pas sûr qu'il faille dériver strictement de toutes les hypothèses et la réalité, l'évolution et de Darwin, la façon dont notre société doit fonctionner. Mais c'est un sujet qui nous écarte du débat d'aujourd'hui. Si je reviens à l'étude de M. Bignon que j'ai pas lu encore, je pense que ça s'inscrit dans un courant actuel qui est tout à fait intéressant de l'étude du système immunitaire, non pas de façon analytique en étudiant la fonction de telle ou telle molécule, ce qui reste extrêmement important, mais d'essayer d'appréhender globalement le système immunitaire d'une certaine façon, essayer de définir pour l'homme, si on réfléchit un tout petit peu médecine, une espèce d'état de santé, notre système immunitaire, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc je pense que ce type de travaux est très important parce qu'il contribue à cela et il affinera la définition d'espèce d'état d'équilibre de notre système immunitaire dont ensuite les perturbations pathologiques viennent provoquer telle ou telle maladie et où la génétique intervient un peu plus.
Oui, alors justement, Alexandre Bignon, il y a quelque chose que j'aimerais bien comprendre dans cette influence mutuelle finalement de nos systèmes immunitaires au sein d'un couple, par exemple.
Oui.
Est-ce que c'est pour, au fond, renforcer justement notre système immunitaire ou est-ce que dans certains cas, au contraire, ça peut l'affaiblir? Parce que là, à vous entendre, on a l'impression que c'est très positif au fond.
En fait, une fois de plus, je ne veux pas donner de côté positif ou négatif. Si vous êtes en bonne santé, un individu sain, votre système immunitaire va être capable de se défendre de toute façon. Et puis, si il est soumis à une agression, et quelque part, il va avoir aussi gardé en mémoire cette agression. Mmh. Donc, c'est plutôt, ça peut être parfois positif et parfois ça peut être négatif. Par exemple, on sait que les gens qui sont infectés par le CMV, c'est un certain type de virus, ben, ça va avoir une influence sur le vieillissement du système immunitaire. Et là, pour le coup, c'est pas forcément agréable.
Donc ça peut être dans les deux sens, hein, effectivement.
Ça peut être dans les deux sens, tout à fait.
Axel, dernière question ?
Mais oui, vous venez de le dire, un des critères très importants qu'on voit dans votre étude, c'est le vieillissement. C'est quelque chose qui influence énormément notre système immunitaire.
Oui, dans notre étude, ça a été vraiment le facteur majeur qui modifie le système immunitaire et là, pour le coup, qui provoque un déclin du système immunitaire, en particulier certaines populations cellulaires. Et ça, c'est ce qui peut expliquer qu'au cours du vieillissement, eh bien, on a un déclin de la qualité de la réponse immunitaire. Et ça peut expliquer, par exemple, pourquoi les personnes âgées sont plus susceptibles aux infections ou alors qu'elles répondent moins bien aux vaccins. Et nous, c'est cette thématique, ici à Cambridge, hein, sous la direction du docteur Michel Intermann, que nous travaillons. Nous essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe pour le système immunitaire au cours du vieillissement et comment on peut l'améliorer.
Dominique, le mot de la fin ?
Oui, attention, parce que le vieillissement, il y a l'adaptation et puis il y a la mémoire. Parce que pendant la grande épidémie de grippe de 2009, en fait, les seuls qui ont survécu, c'était les vieux. Enfin, les seuls qui ont survécu, pardon. Oui. C'est une très mauvaise formule. Ceux qui ont été
c'est
le moins touchés,
déjà
ceux
dans leur
dont
histoire
on s'attendait,
étaient confrontés.
Ceux dont on s'attendait, ce qui est une hécatombe, c'était les personnes âgées. Or, ils ont été totalement, enfin, quasiment totalement protégés parce qu'ils avaient une vieille immunité vis-à-vis de ce virus, ou en tout cas parente. Mm-hmm. Et donc, la personne âgée a du mal à créer de nouvelles réponse immunitaire, mais elle a une mémoire qui peut être extrêmement solide.
Oui, mais attention, parce que les personnes âgées de cette époque et de maintenant, c'est pas le même âge, probablement. Ce que j'appelle personnes âgées, c'est maintenant, c'est supérieur à 65 ans. Et là, vraiment, on a un déficit de la qualité de la réponse immunitaire. On a une mémoire, mais on a un système immunitaire qui est capable de moins bien fonctionner.
Bon, en tout cas, c'est passionnant. Étude donc publiée mardi. On aimerait aller plus loin pour pouvoir explorer ça. Est-ce qu'on peut appeler ça l'épigénétique du système immunitaire, Alexandre Bignan
ou pas ? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment
parce qu'on est
l'environnement du système immunitaire.
Oui, parce qu'on est en dehors des gènes, vous le disiez tout à l'heure. Mais
oui,
comme
exactement.
Comme on est au-delà et à l'extérieur, il faut proposer un autre nom. Alors, merci beaucoup à vous pour ces explications. Merci Dominique Dupagne. À très bientôt. Et Axel, à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Mal se brosser les dents augmenterait les risques d'AVC. Des chercheurs américains avaient déjà isolé des bactéries responsables des caries dans la salive de plus de la moitié des patients accidentés. Ils montrent maintenant que le véritable problème est un gène de ces bactéries, le CNM, qui leur permet de perforer la barrière hémato-encéphalique qui sépare le sang du cerveau pour provoquer des saignements favorisant les AVC. Ce gène pourrait, selon les auteurs, être aussi impliqué dans les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Les hommes de Néandertal ont fricoté avec nos ancêtres humains bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. C'est l'ADN d'un os d'orteil d'une femelle néandertalienne qui le prouve. La rencontre entre nos deux espèces a eu lieu il y a 100 000 ans entre le Nil et la péninsule arabique. Cette lignée humaine qui a copulé avec les hommes de Néandertal n'a pas perduré. Mais des traces de notre génome ont bien été détectées sur l'os et étudiées. La seconde rencontre entre nos deux espèces a eu lieu au cours de migrations il y a 50 000 ans dans le Moyen-Orient. Et puis pour finir, un timelapse admirable de 6 minutes qui montre comment le Soleil a évolué ces 6 dernières années. Vendredi, les chercheurs de la NASA dévoilaient des images étonnantes d'un satellite qui gravite en orbite autour de la couronne solaire et qui le photographie toutes les 12 secondes. Les images capturées à l'extrême de l'ultraviolet nous montrent une fois assemblée la rotation du Soleil sur son axe et ses milliers d'éruptions quotidiennes. Cette très belle vidéo est en ligne sur le Twitter et la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, bricolage du vivant dans un instant. CRISPR Cas9.
Toi, tout ça ne te ressemble pas. Toi, mon pays en capitale, que j'ai foulé de mes premiers pas. Toi, tu sais comme j'ai honte parfois de l'image que tu donnes à voir, des idées qui battent ton trottoir. Vois, toi qui fais tant partie de moi, comme je voudrais mettre les voiles. Toi et tes millions de gens comme moi qu'ont chopé le mal du pays, mais qui oseraient vasser dans leur lit. Vois cette majorité silencieuse qui est trop timide, qui est trop frileuse face aux loups qui sortent du bois. Vois comme tu gâches ton paysage, la peur plaquée sur ton visage. Toutes les voiles dehors, mais dès que je change de décor, je repense à toi. Ça ne te ressemble pas, toi qui ne mesures plus ta chance, tu ricanes de tes présidences. Vois comme tu mets la haine au devant, sensationnelle révélation, et ce cynisme dans le vent. Vois toute l'emprise que tu as sur moi, et dis-moi que tu changeras. Toutes les voiles dehors, mais dès que je quitte ton décor, je reviens vers toi.
S'appelle Séverin France à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
On va vous parler cet après-midi d'une découverte qualifiée par certains de révolutionnaire. C'est en train de bouleverser en tout cas le monde de la génétique. Cette méthode est appelée CRISPR-Cas9. C'est un outil qui permet de modifier rapidement donc le génome pour soigner ou optimiser le vivant. On va tout vous expliquer donc pour comprendre quelles sont les perspectives de cette méthode et puis aussi les questions éthiques qu'elle soulève. Mes invités donc, Alain Fischer, vous êtes chercheur et professeur d'immunologie pédiatrique. Vous dirigez l'Institut Hospitalo-Universitaire Imagine et vous êtes titulaire de la chaire médecine expérimentale au Collège de France. Et puis à vos côtés, et Catherine Bourguin, vous êtes généticienne chargée de recherche à l'INSERM, au CERMES, c'est ça, hein, le Centre de Recherche Médecine Sciences Société. Vous êtes membre du comité d'éthique de l'INSERM et aussi vice-présidente de la Fondation Sciences Citoyennes. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr. Alain Fischer, qu'est-ce que ça veut dire CRISPR-Cas9?
Ah non, ça c'est la question qu'il ne faut pas poser. Ça.
J'aimerais qu'on le dise au moins une fois.
Lisez-le, parce que je ne sais pas par cœur.
On va le dire en français, oui. Hein, parce qu'en anglais c'est absolument imprononçable. D'abord, Cas9 c'est quoi? C'est le nom d'une protéine?
Cas9 c'est une protéine, c'est une enzyme qui coupe l'ADN.
Voilà. Et le tout veut dire courte séquence palindromique répétée, groupée et régulièrement espacée. Voilà. Et on est bien avancé avec ça. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une innovation, en tout cas qui semble bien partie, je le disais, pour décrocher un Nobel de médecine qui apparemment fait vibrer quand même toute la communauté scientifique avec, évidemment, en perspective, l'espoir de guérir des maladies génétiques, mais pas seulement d'ailleurs, pas que. Alain Fischer, comment on peut situer, dans l'histoire de la génétique là de ces dernières années, justement, cette découverte, pour que les auditeurs comprennent bien pourquoi on consacre un dossier entier de la tête au carré à ce sujet-là aujourd'hui?
C'est réellement, sans excès de propos, une avancée majeure.
Ouais. On parlait des ondes gravitationnelles en physique la semaine dernière, on pourrait pratiquement comparer ça.
Je suis pas assez connaisseur de la physique, faire des comptes. Je pense que les ondes gravitationnelles sont peut-être encore un élément conceptuellement plus important. Mais néanmoins, c'est une avancée majeure de la biologie qui a modifié, c'est un fait, la vie de tous les laboratoires de biologie du monde au cours de 2-3 ans.
Mais c'est ça, c'est très rapide en plus. Hein.
Oui, parce que la technologie elle-même est assez simple à employer pour un laboratoire qui a une connaissance en génétique et son utilisation, je pense qu'on va en parler, recherche, je ne parle pas pour l'instant de médecine ou quoi que ce soit d'autre, est un outil extraordinaire pour modifier les cellules, pour modifier les êtres vivants et donc poser des questions scientifiques de façon plus rapide et efficace qu'antérieurement. Ouais.
Catherine Bourguin, c'est cette rapidité aussi qui frappe aujourd'hui et qui du coup mobilise aussi les comités d'éthique, hein.
Oui, les comités d'éthique, les chercheurs eux-mêmes, pour certains, se sont saisis de certaines de ces questions très rapidement. Hein, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça s'inscrit dans une science aujourd'hui qui est peut-être beaucoup plus mondialisée qu'il y a quelques années. Et qui dit mondialisation, dit aussi règles juridiques, éthiques, qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays.
C'est ça. Et donc, avec des audaces de la part de certains pays. On parlera de la Chine tout à l'heure, qui travaille déjà sur les embryons. Hein.
Mais même les différences entre la France et l'Angleterre, ou certains États des États-Unis. Hein, donc les différences de régulation sont nombreuses.
Oui. Pour vous aussi, c'est une avancée très importante quand même. Hormis ces questions éthiques. Hein,
ah, mais de toute façon, si les questions éthiques se posent de façon importante, c'est parce que c'est une avancée importante et puis qui, comme l'a dit le professeur Fischer, qui s'est développée très rapidement et elle s'est aussi développée très rapidement parce que beaucoup de laboratoires étaient un peu prêts à utiliser ces techniques au sens où le fait de modifier l'ADN, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui dans beaucoup de domaines différents des sciences du vivant.
Alors, j'essayais d'employer des images tout à l'heure, de couteaux suisses, d'outils, de boîtes à bricolage, Alain Fischer. Bon, on est un
peu... j'ai envie d'utiliser le terme ciseaux.
D'accord, oui, c'est ce que vous disiez.
Ciseaux moléculaires qui coupent avec une grande précision, pas parfaite, on y reviendra peut-être, mais une grande précision, l'ADN.
Ouais. Alors, cette technique a été mise au point, entre autres, par une Française, la microbiologiste Emmanuelle Charpentier et la biochimiste américaine Jennifer Doudna, qui pourraient leur valoir, justement, un prix Nobel. En tout cas, elles reçoivent déjà beaucoup de récompenses dans le monde, comme en témoigne cet extrait.
Grand show à l'américaine pour la remise d'un prix international prestigieux.
Ladies and gentlemen, Cameron Diaz and Dick Costello.
Les deux femmes que nous allons récompenser ont réussi à comprendre comment éditer notre code génétique.
Ensemble, ces deux chercheuses ont révolutionné le monde de la génétique. Ce jour-là, elles remportent le prix scientifique le plus généreux du monde, 3 millions de dollars.
C'est assez surréaliste de recevoir ce prix des mains de Cameron Diaz. Nous sommes trois femmes puissantes et je me demandais, c'est vous Charlie ?
Cette drôle de dame, c'est Emmanuelle Charpentier. Depuis 3 ans, elle et sa consœur reçoivent une pluie de récompenses.
L'outil CRISPR offre de nombreuses perspectives pour pouvoir traiter un patient qui aura une certaine mutation et de pouvoir corriger la mutation et guérir le patient à vie.
Pour l'heure, sa découverte lui vaut d'être pressentie pour le Nobel de chimie. Un journaliste canadien s'est même récemment risqué à lui en parler.
Est-ce que je suis en présence d'un futur prix Nobel?
Alors, c'est pas à moi de le décider, ça.
Voilà, un prix Nobel de chimie ou de médecine, d'ailleurs, Alain Fischer?
Ça pourrait l'être l'un ou l'autre.
Ouais, pourquoi la chimie, alors, justement, là-dedans?
Parce que l'ADN est une molécule chimique, que le CRISPR-Cas9 est une molécule chimique, donc l'utilisation de molécules relève tout à fait du domaine de la chimie.
Oui. Vous voyez, quand même, un prix de 3 millions de dollars, c'est dire aussi l'importance quand même de ces découvertes. On va voir ce qui va se passer, évidemment. En ce moment, vous le précisiez tout à l'heure, Alain Fischer, on est encore à l'étape de la recherche fondamentale autour de CRISPR?
Pas que. C'est aujourd'hui, l'utilisation de CRISPR-Cas9 est essentiellement un outil de recherche fondamentale au sens large de recherche expérimentale dans de très nombreux domaines des sciences de la vie. Mm-hmm. Mais il y a des travaux en cours de recherche qui essayent de mettre au point l'utilisation de ce système ou de systèmes très proches dans des buts d'application, même si ces applications n'ont pas encore vu le jour.
Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait aller dans les détails, justement, pour comprendre comment on peut parvenir à modifier les propriétés d'une cellule vivante, hein, puisque c'est le principe avec cette paire de ciseaux dont vous nous parliez tout à l'heure. Comment on peut agir, alors, et qu'est-ce qui se passe, exactement?
Est-ce qu'on peut commencer par dire comment était découverte
bien
ce CRISPR-Cas9?
Bien sûr.
En fait, c'est pas un ciseau moléculaire, si je reprends mon terme, qui tombe comme ça du ciel, et quelqu'un dans un laboratoire a eu l'idée d'inventer, ces deux dames, aussi brillantes soient-elles, n'ont pas inventé cette molécule. Cette molécule, quelque chose de proche, a été découvert par des chercheurs qui s'intéressent à la façon dont des bactéries se défendent contre des virus qu'on appelle des phages. Autrement dit, c'est le système immunitaire des bactéries contre des virus. Et c'est certaines bactéries de toute classe, pas toutes, mais beaucoup de classes, utilisent ce système pour, en fait, lors d'une seconde intrusion d'un virus, avoir une espèce de mémoire de la séquence de ce virus et d'utiliser l'enzyme Cas9 pour couper l'ADN du virus et ainsi l'empêcher qu'il se propage.
Ça, c'était les travaux des Japonais à la fin des années 80.
C'est les travaux de beaucoup de groupes, y compris Emmanuelle Charpentier, qui a attaquer, si je puis dire, ce type de recherche en tant que microbiologiste étudiant les systèmes de défense de bactéries contagieuses. Et d'autres, et ça, il y a des équipes en Espagne, en France, d'autres aux États-Unis, au Japon, etc. C'est un grand, enfin un grand nombre, un relativement grand nombre de chercheurs sont intéressés à ce type de molécules au cours des 20 dernières années, disons.
Donc ça, c'est la première étape importante.
Première étape. Et à partir de cette observation, il a été réalisé, là c'est en particulier le rôle d'Emmanuel Charpentier, de Jennifer Doudna, quelques autres aussi, qu'après tout, en modifiant ce système, on pouvait donc en faire un outil assez astucieux, on va dire, de bricolage de l'ADN. Mais c'est une étape seconde, donc, et la réalisation pratique, et qui est passée par une simplification du système, en particulier pour que l'enzyme, le Cas9, coupe exactement, il faut que cette enzyme soit apportée, portée, guidée exactement au bon endroit de l'ADN, et c'est un ARN qui fait le boulot, et l'ARN qui est utilisé aujourd'hui n'est pas l'ARN naturel des bactéries, il a été modifié, considérablement simplifié pour être efficace, mais le principe du guidage de l'enzyme au bon endroit a été conservé.
Oui. Alors apparemment aussi dans l'histoire de la découverte, en 2007 apparemment il y a des chercheurs de l'industrie laitière au Danemark c'est ça, qui ont fait des découvertes autour des bactéries dans les yaourts et le fromage. Et ça a aussi participé finalement à la compréhension
absolument,
du phénomène.
Absolument, y compris un chercheur français dont malheureusement le nom ne me revient pas à la minute, je ne sais pas si vous l'avez en tête, qui travaille dans les services de l'armée, qui a aussi contribué de façon incidente à ces travaux. Vous voyez, donc, mais c'est une très belle illustration, après tout, je pense que c'est l'occasion de le signaler, une fois de plus, du fait que des travaux fondamentaux, et pour lesquels il n'y a aucune idée d'application a priori, débouchent de temps en temps, je pèse mes mots, sur des révolutions scientifiques. Ça a été vrai dans le passé avec toutes sortes d'autres systèmes, donc ça rappelle l'importance primordiale de la recherche fondamentale en science.
Et donc là, autour des infections virales, donc il y avait des choses très concrètes qui se passaient et qui montraient justement qu'il y avait une meilleure résistance.
Il était parfaitement montré que des bactéries se défendent contre certains types de virus, encore une fois les phages, grâce à ce système, il est parfaitement efficace. Les bactéries ont un système immunitaire, comme nous, on en parlait tout à l'heure.
Catherine Bourguin qui a
ramené... C'est de Gilles Vergniaud dont vous parliez.
Oui, ça doit être lui. Oui.
Elle a rapporté toute sa doc et elle avait le nez dedans justement pour nous donner le nom. On va écouter l'extrait d'un film, parce qu'on s'amuse aussi à extrapoler, pour voir exactement jusqu'où on pourra aller dans la modification de l'ADN. Vous me direz si ce choix était judicieux ou pas, puisqu'on a choisi la mouche.
Une mouche est entrée dans le télépod transmetteur avec moi la première fois quand j'étais seul. L'ordinateur a été ennuyé. Il ne devait pas y avoir deux systèmes génétiques séparés alors. Et il a décidé de nous fusionner tous les deux. Il nous a unis, moi et la mouche. Nous n'avions même pas été présentés avant. Téléportation est devenue un accouplement génétique. Et pas n'importe lequel, je ne suis plus Seth Brundle maintenant. Je suis le fruit des efforts de Brundle et d'une mouche.
Oh mon Dieu!
Non!
Oh mon Dieu! Seth!
Tu es si belle.
Oh, que va-t-il t'arriver?
Oh, c'est en train de devenir une sorte de cancer, mais de forme bizarre.
Quoi?
C'est un chaos, une révolution cellulaire générale. Je vais être désintégré. D'une manière nouvelle, sans doute. Et alors je mourrai, et ce sera fini.
Catherine Bourguin, un homme mi-mouche, si on bricole justement l'ADN, est-ce qu'on pourrait arriver à ce type de chimère?
Je pense que théoriquement on peut y arriver, après on n'y est pas encore techniquement, il y a un certain nombre d'étapes à traverser, mais ce qu'il y a de sûr c'est que... Ce que ça montre, c'est que l'ADN, c'est quand même une molécule qui est caractéristique de tout le règne vivant qu'on partage avec nos plus proches voisins, mais aussi avec les plus éloignés, et que le fait de bricoler l'ADN interroge beaucoup les questions de spécificité de l'humain par rapport aux animaux. Pourquoi on bricole? Sur qui on bricole? Quels sont les cadres qu'on se fixe pour réfléchir à ce qu'on s'autorise et ce qu'on ne s'autorise pas? Et on peut décider pour des raisons morales de ne pas le faire, encore faut-il en débattre et puis savoir mettre des limites ou pas, enfin en tout cas que tous les éléments puissent être disponibles et pris en compte.
Mais quand on pense aux apprentis sorciers de la génétique et sur les possibilités offertes par cet outil justement, CRISPR, est-ce qu'on pourrait imaginer à terme, en tout cas dans des formes extrêmes, ce type d'exemple?
Il y a déjà des chercheurs en Chine qui ont commencé à essayer de faire du bricolage sur le zygote, donc le stade initial de développement d'un être humain. Donc il y a des tentatives, ça n'a pas marché. Ils ont montré, enfin leur travail a montré que c'était beaucoup plus compliqué que ça et qu'on n'y était pas encore. Mais en tout cas, ils ont essayé. Donc voilà.
Alain Fischer, l'exemple de la mouche, c'était judicieux ou pas alors?
Pas sûr. Pour moi, ça me rappelle plus la métamorphose de Kafka et la signification de cela que la biologie et la science. Enfin. J'aimerais faire une différence, je pense qu'on reviendra à la discussion, entre les travaux des Chinois pour lesquels on peut émettre certaines critiques, mais qui, dont l'objectif est d'essayer de caractériser certaines étapes précoces du développement humain en modifiant des zygotes. Mmh. Je ne suis pas forcément hostile à ce type de recherche. Je dis très franchement, je donne un double négatif. Autrement dit, j'y suis potentiellement favorable pourvu qu'elle soit scientifiquement fondée et surtout, naturellement, qu'un embryon modifié de la sorte ne soit pas réimplanté. Donc, il n'y ait pas de projet d'enfant à partir de là. Alors là, on entrerait dans des choses, à mon sens, je donne une opinion toute personnelle, totalement inacceptable. Mais l'idée, le concept qui vient d'être accepté en Grande-Bretagne, que l'on puisse modifier à un stade très précoce, donc la cellule zygote, donc le stade unicellulaire, de l'embryon, de modifier tel ou tel gène pour étudier tel ou tel aspect de son développement dans les premiers jours de l'embryogenèse, me paraît pas un domaine chimérique forcément à repousser du revers de main immédiat. À partir du moment où on est tout à fait clair que c'est une recherche qui n'a pas de but de modification de l'humain, mmh. c'est-à-dire que cet embryon soit ensuite réimplanté.
Mmh. Allez, je vous transmets les courriels des auditeurs. Il y a déjà beaucoup de questions qui arrivent pour vous sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr, et puis les messages courts également sur le mot-clé « l'attaque ».
Of your master.
Drums à l'instant sur France Inter. Mes invités, le professeur Alain Fischer et la généticienne Catherine Bourguin, pour nous parler donc du bricolage de l'ADN avec CRISPR-Cas9 et beaucoup de questions des auditeurs. Emmanuelle Charpentier, on en parlait tout à l'heure, écrivait elle-même en octobre dans la revue Pour la Science, une chirurgie précise et universelle des génomes peut commencer. Alain Fischer, on peut parler d'une chirurgie de la génétique aujourd'hui, parce qu'il y a Viron qui nous demande si le terme de bricolage est bien adapté finalement.
Je pense que les termes, là, en l'occurrence, ne sont pas contradictoires. La chirurgie et le bricolage aussi sont deux images de ce qui est réalisé. Mais on peut prendre la notion de chirurgie par le fait que, donc encore une fois, avec cette enzyme, on peut couper de l'ADN. Et oui, ensuite, soit le laisser se réparer tout seul, il va faire des erreurs. Et en faisant une erreur, il va, par exemple, inactiver un gène dont on peut étudier ensuite les conséquences dans la cellule ou l'être vivant dans lequel cette opération a été menée, et on peut d'ailleurs aussi l'envisager en thérapeutique. De temps en temps, ça peut être utile d'inactiver un gène, de créer des mutations. Et puis, donc, c'est une chirurgie, entre guillemets, imprécise, en termes de résultat final. Et l'autre façon de faire, qui est plus précise, c'est de couper, mais ensuite de modifier, c'est-à-dire en introduisant, avec une séquence d'ADN mise dans la cellule, une séquence qui va s'incorporer dans l'ADN. Et par exemple, s'il y avait à cet endroit-là une mutation, faire disparaître la mutation. Donc ça, c'est en termes d'application thérapeutique, c'est la façon dont on pourrait envisager de guérir une maladie héréditaire, une maladie génétique, en restaurant une séquence normale du gène. Donc ça devient une chirurgie très précise, mais c'est aussi un bricolage.
Et très prometteuse, hein, puisque...
Très prometteuse si on y arrive, mais ouais, on n'y est pas encore arrivé, en tous les cas, chez l'être humain, il faut faire attention. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup
on
de
a travaillé quoi, sur le primate et la souris, principalement
on a, sur des beaucoup d'espèces vivantes, du poisson, la mouche, on en parlait, les souris,
les moustiques, on va en parler aussi.
Des gros mammifères, jusqu'aux singes, primates, vous l'avez évoqué, oui.
Ouais. Et Catherine Bourguin, est-ce que les résultats sont probants ou pas, justement, chez ces animaux, ou est-ce qu'il y a encore des problèmes de fiabilité?
Ben, en tout cas, je trouve que le terme de chirurgie est à prendre avec des pincettes. Parce que je trouve que le terme de bricolage est plus adapté, parce qu'on en est quand même à un stade où c'est encore du bricolage. Et si on utilise le terme de chirurgie, on peut penser qu'on maîtrise complètement ce qu'on fait. Or, on sait qu'il y a des effets inattendus associés à la technique sur lesquels on travaille, qu'on essaye de contrôler, etc. Donc ça progresse. Mais
la maîtrise du geste n'est pas totalement là.
N'est pas totalement là. Et c'est un enjeu important, parce que sur les questions d'améliorer la technique ou de faire des mesures de risque, de prendre des mesures justement à partir du moment où on va modifier des organismes qui vont aller dans la vraie vie, qui vont sortir des laboratoires, eh bien cette question de la précision et de la capacité à mesurer que précisément on sait ce qu'on fait et qu'on fait exactement ce qu'on veut faire, elle est centrale.
Ouais.
Il faut bien distinguer les deux types d'utilisation possibles, celle qui est en place aujourd'hui dans les laboratoires et qui est utilisée encore une fois cette approche pour modifier des gènes, un ou plusieurs d'ailleurs, dans la même cellule, c'est possible, et d'en étudier les conséquences, et ça c'est maîtrisé, en gros. Et les applications éventuelles dans le vivant humain ou d'espèces vivantes,
animales ou des
plantes,
même,
dans la nature, ou des plantes bien sûr, où là les choses effectivement méritent d'être regardées avec plus de précautions. Donc je pense qu'il faut bien distinguer les deux types d'utilisation pour poursuivre le débat.
Est-ce que, demande Faraday, on pourrait dire que CRISPR-Cas9 est une enzyme qui détricote l'ADN?
Non, il existe des enzymes qui détricotent l'ADN, ça s'appelle des hélicases qui modifient sa structure. Non, il détricote pas l'ADN, il le coupe. Mmh. Il le coupe et ensuite on fait un système éventuellement pour coller. Donc on fait du copier-coller, si on veut, pour prendre cette image.
Ouais. Est-ce que l'effet est immédiat, justement?
Et très rapide, oui.
Ouais. Mmh. Tout de suite, en fait?
Tout de suite, ça coupe. Si l'enzyme est présente et au contact de l'ADN, encore faut-il que l'enzyme ait été apportée dans la cellule, avec donc le petit morceau d'ARN qui guide l'enzyme au bon endroit. La coupure est immédiate, la réaction en tant que telle est extrêmement rapide.
Alors voici un exemple intéressant autour des moustiques. Vous allez tout de suite comprendre ce qu'on pourrait faire justement avec cette méthode et là aussi les promesses qu'elle laisse supposer.
Le docteur Blandin et son équipe ont identifié le gène présent chez les moustiques qui résistent au paludisme. C'est à lui que ces insectes doivent leur résistance aux maladies. Et voici comment on extrait l'ADN d'un moustique pour en étudier le génome.
Donc c'est le mixtype qui s'appelle Anopheles gambier et c'est un des vecteurs principaux du paludisme en Afrique.
Les billes de céramique servent à broyer les insectes pour extraire leur ADN.
Là, je vais prendre le petit mâle, je le mets dans son petit tube et on bouche.
Et c'est dans cette belle centrifugeuse que cela se passe.
Donc je vais les récupérer. Et là, ce qu'on va voir, en fait, c'est un petit liquide rosé qui contient les pigments des yeux des moustiques et l'ADN, entre autres. Et donc, c'est à partir de cette sauce, en fait, qu'on va pouvoir extraire l'ADN en le précipitant.
Une fois le gène de la résistance identifié, ces scientifiques ont pu modifier génétiquement les moustiques pour que des populations entières deviennent résistantes aux maladies.
Voilà, extrait de l'émission Futur Mag, diffusée sur Arte. On voit Catherine Bourguin. Alors là, il y a un exemple très précis, qui serait extraordinaire si on arrivait vraiment à désactiver. Alors, comment il faut le dire, le gène qui transmet la maladie, le paludisme par exemple ou...
Oui, il y a des gènes qui permettent de contrôler l'infection par le parasite à l'origine de la maladie, en fait, qui font que les moustiques sont plus ou moins capables de transporter cette maladie.
Ouais.
Donc là, effectivement, il y a des modifications qui sont en cours dans certains laboratoires. Mais alors, pour le coup, on est vraiment dans la phase applicative, pour bien reprendre la distinction, et se pose tout un tas de questions, parce que c'est pas la première fois qu'on essaye de jouer sur les populations de moustiques pour lutter contre le paludisme. Il y a eu d'autres approches qui étaient plus chimiques par des molécules auparavant, mais on sait que c'est une dynamique complexe, la dynamique des populations, que ça s'inscrit en plus toujours dans des écosystèmes avec des interactions compliquées, et que la nature, on l'a dit dans la première partie de l'émission, a une capacité d'adaptation énorme, parfois très rapide, et donc il faut être quand même en mesure de faire attention aux différents paramètres, avoir des plans B au cas où ça tourne.
On ne peut pas tout anticiper de toute façon.
Disons qu'en tout cas aujourd'hui, on est très loin d'avoir anticipé autre chose que le fait de modifier l'insecte en lui-même. Ouais. Et donc là, on est vraiment, je trouve, dans une phase très préliminaire. Évidemment que éradiquer les moustiques, c'est quelque chose... Enfin, en tout cas, éradiquer le paludisme, c'est un bel objectif. Ouais. Est-ce que ça passe par l'éradication des moustiques? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça demande beaucoup de précautions.
Ouais. D'autant que cette désactivation de gènes, Alain Fischer, si j'ai bien compris, serait transmise à la descendance du moustique aussi.
Absolument. C'est pour cela que la discussion est vraiment sérieuse, c'est qu'on est en train de parler de modification du patrimoine génétique, certes de moustiques, pas de l'humain, je pense qu'on parlera de l'homme tout à l'heure, mais je suis d'accord qu'il faut faire extrêmement attention. En même temps, on peut envisager des systèmes qui ne font pas disparaître les moustiques, mais qui les rendent incapables de propager le parasite. Donc ce serait une façon probablement un peu moins à risque, même s'il faut être très prudent et il faut étudier les choses pour savoir ce qui sera réellement faisable, mais qui permettrait comme de conserver, si je puis dire, accepter d'être toujours piqué, mais si on est piqué sans être infecté par le plasmodium,
ça fait des milliers de morts en moins.
Ça serait pas mal, mais il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a beaucoup de paramètres, c'est assez compliqué, il y a des modifications secondaires possibles, mais je pense que c'est une voie de recherche intéressante, mais qu'il faudra prendre beaucoup de précautions avant de l'application.
Voilà. Donc une application concrète de CRISPR-Cas9.
Hein, absolument.
Là, avec ce moustique, on a un bon exemple. Tara nous écrit, j'ai 16 ans, dit-elle, en première S. Je fais actuellement mon TPE sur l'hémophilie, qui est une maladie qui touche les facteurs de coagulation au niveau de l'ADN. J'aimerais savoir si la technique dont vous parlez pourrait être appliquée à ce type de maladie. Catherine Bourguin?
Alors, il y a deux aspects, c'est-à-dire que il y a la question de savoir est-ce qu'on va pouvoir traiter les patients hémophiles avec ça, et je laisserai peut-être Alain Fischer répondre sur ce point. Et puis la deuxième question, c'est de savoir est-ce que on va pouvoir modifier les embryons à naître pour que ne naissent plus de personnes hémophiles. Après, ça pose la question sur quoi on fait du tri à la naissance. Est-ce que l'hémophilie est une raison suffisante pour éviter aux personnes de naître? Personnellement, je ne le pense pas, mais et puis surtout, ça pose aussi la question de l'utilité de la technique, parce que certes, CRISPR est peut-être capable de faire certaines choses, mais aujourd'hui, pour les maladies génétiques qu'on ne sait pas guérir et qui sont très invalidantes, on propose en France du diagnostic prénatal, voire du diagnostic préimplantatoire, qui sont des techniques qui sont au point, utilisées en routine, etc. Et donc, on n'a pas besoin de faire du CRISPR pour faire ça. On a déjà des façons de faire qui sont au point.
Alain Fischer?
Oui, je suis absolument d'accord sur ce point. Il y a des situations ultra exceptionnelles où on pourrait discuter l'application chez l'embryon, mais je suis d'accord fondamentalement. Alors, je reviens à l'autre aspect de la question, c'est peut-on envisager d'utiliser le système CRISPR-Cas9 pour traiter un patient, un malade? Donc, l'objectif ici est de traiter une maladie chez un individu, de ne pas modifier son patrimoine génétique, c'est-à-dire qu'il ne transmettra pas à sa descendance la modification génétique apportée. C'est strictement le traitement du patient. C'est ce qui se fait aujourd'hui par des méthodes... qualifiées aujourd'hui de classiques, même si elles ne sont pas encore très anciennes, de thérapie génique, qui s'appliquent à l'hémophilie. Enfin, en tous les cas, une des deux formes d'hémophilie, l'hémophilie B, qui est la moins fréquente, a été traitée avec une certaine efficacité, avec un recul maintenant qui atteint 4-5 ans, par au moins une équipe en Grande-Bretagne, aussi aux États-Unis, avec une méthode qui ne consiste pas à corriger la mutation, mais à apporter dans les cellules, en l'occurrence dans les cellules du foie, une copie normale du gène. Donc on a à la fois, on garde la mutation, les cellules du foie j'entends, et à côté, quelque part dans le noyau de la cellule, il y a le gène qui produit le facteur de la coagulation. Et ça marche de façon relativement satisfaisante, mais la technique CRISPR-Cas9, si elle fonctionne bien, peut permettre de le faire de façon plus efficace. Il y a néanmoins des questions qu'on peut évoquer qui ne sont pas encore résolues pour qu'elles soient tout à fait au point.
On le fera dans la dernière partie de l'émission dans un instant.
C'est moi, Gainsbourg. On me trouve au hasard. Des nightclubs, des bars américains, c'est bonheur.
Serge Gainsbourg, bien sûr, dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré. Sur France Inter.
Allez, CRISPR-Cas9, retenez bien ce nom barbare, parce qu'on va beaucoup en parler dans les années qui viennent dans le domaine de la génétique avec le bricolage du vivant. Alain Fischer et Catherine Bourguin, mes invités, on parle principalement de maladies génétiques. Alain Fischer, on pourrait soigner autre chose avec cette paire de ciseaux décrite par vous-même il y a quelques minutes?
Possiblement, peut-être quand même réexpliquer ou expliquer l'intérêt de la méthode par rapport à ce qui existe aujourd'hui en termes de thérapie génique. L'intérêt donc, c'est de pouvoir soit inactiver un gène de façon très précise. Et ça peut être intéressant, par exemple, pour rendre des cellules réfractaires au virus du sida, hors maladie génétique. Modifier les cellules du système immunitaire pour qu'elles ne soient pas reconnues par quelqu'un qui les recevrait sous forme d'une greffe et que ces cellules, par ailleurs, aient une action antileucémique. Il y a des travaux de ce type en cours, par exemple.
Dans le cancer, dans le domaine du cancer.
Cancer, leucémie, oui. Ouais. Donc ça, c'est un premier type d'application qui est probablement le moins compliqué parce qu'on fait juste la coupure et on laisse l'erreur se réparer ensuite. Et la seconde application, mais qui est très potentiellement intéressante pour les maladies génétiques, donc c'est de corriger, on en a déjà parlé, la mutation, la faire disparaître, de telle manière que le gène corrigé reste dans son environnement physiologique et ne soit pas en train de se promener ailleurs avec quelques risques associés à ce type d'approche. Donc c'est le grand intérêt de la méthode. Deux limites qui font que ce n'est pas encore aujourd'hui opérationnel. La première, c'est qu'on ne sait pas encore le faire dans un nombre de cellules suffisant quel que soit le modèle, les cellules du foie, du cerveau, du sang, etc., pour que l'efficacité clinique médicale soit obtenue. Et la seconde, c'est s'assurer que l'enzyme ne coupe que à l'endroit précis et pas ailleurs. Bon, sur ce plan, il y a des grands progrès. Mm-hmm. Et je pense que cette question, à mon avis, va être résolue.
C'est absolument dramatique, autrement.
Bien sûr, il faut éviter des erreurs de coupure. On est en train de développer, en collectif naturellement, des ciseaux différents qui coupent avec des caractéristiques différentes. Et il y a un très grand nombre d'études en cours qui permettent d'apprécier si c'est, premièrement, la fréquence de ces erreurs et si ces erreurs sont dangereuses ou pas. À mon sens, ce problème va être réglé assez vite.
Catherine Bourguin, est-ce qu'il y a déjà des essais cliniques sur l'homme en ce moment ou est-ce qu'on en est loin?
Alors, à ma connaissance, il n'y en a pas. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a beaucoup de promesses.
Pourquoi il n'y en a pas? Parce que c'est pas autorisé.
Parce que c'est pas encore au point, tout simplement. Mais par contre, il y a beaucoup de promesses d'essais cliniques au point que on pense parfois qu'il y en a déjà.
On a l'impression qu'il y en a plein.
Parce que voilà. Et ce qu'il faut voir, c'est que derrière cette technologie, il y a un énorme, énorme enjeu financier. Alors, il y a des enjeux de propriété intellectuelle.
C'est l'autre aspect, c'est le business, hein, vraiment.
Oui, mais cet aspect-là, il est important parce que c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a déjà, parce que il y a des pressions assez fortes qui viennent aussi, pas seulement bien sûr, mais qui viennent aussi de la sphère financière, qui investit massivement et qui espère avoir rapidement des retours financiers. Et du coup, ça accélère parfois certaines étapes. Et au lieu de prendre le temps d'évaluer suffisamment les choses, eh bien, on peut être poussé à accélérer parce qu'il y a des enjeux financiers très forts derrière.
Une question de Patrick. Outre les dérives de science-fiction, cette découverte ne met-elle pas fin à l'évolution de l'homme en voulant préserver un statu quo, Alain Fischer?
Non. Sûrement pas.
L'homme évoluerait toujours.
L'homme va continuer d'évoluer.
Malgré CRISPR.
On sait que chaque nouveau-né comporte dans son génome quelques mutations qui sont apparues et qui sont pour la plupart neutres. Parfois, en processus de sélection sur le long terme, pourrait être un avantage ou malheureusement peut être un désavantage, créer une maladie. Et cela ne s'arrêtera et bien évidemment pas. Ça n'a rien à voir avec la technique.
Catherine Bourguin, en tout cas, ce débat éthique s'est accéléré là, en février dernier, il y a un an, quand des rumeurs ont couru sur des publications d'une utilisation de CRISPR pour modifier le génome d'embryons humains ou des gamètes humains, par les Chinois en particulier. Alors là, il y a eu vraiment mobilisation des comités d'éthique pour dire attention, parce que là, on est en train de dépasser largement les limites.
Bah, c'est-à-dire que la régulation internationale n'est pas homogène sur le fait de savoir est-ce qu'on a le droit ou pas de toucher à l'ADN de l'embryon. Selon les États d'Europe, c'est pas la même régulation, c'est même pas homogénéisé au niveau européen. Il y a, même au niveau des États américains, ils sont pas. C'est autorisé dans certains États, interdit dans d'autres. En Chine, c'est en partie autorisé. Comme le disait Alain Fischer tout à l'heure, il y a une distinction entre faire des recherches pour comprendre comment fonctionne l'embryon et, par exemple, dans des visées d'améliorer les techniques de FIV.
Ouais.
Donc, il s'agit pas de modifier l'embryon, mais de faire de la recherche en travaillant sur les gènes de l'embryon sans les réimplanter après. Et puis, il y a l'autre aspect qui est de modifier des embryons pour les implanter après. Et c'est vrai que le lever de bouclier des comités d'éthique ou de certains chercheurs et aussi de certains industriels, il faut le dire, parce que c'était aussi l'intérêt de ne pas voir diaboliser une technologie qui risquait de la faire mourir dans l'œuf, de dire non, nous ne voulons pas qu'il y ait des modifications qui soient transmissibles. Donc on ne veut pas toucher aux embryons qui puissent être ensuite réimplantés. Voilà. Donc c'est là où se situe le débat éthique.
Jean-Baptiste nous écrit, Einstein a apporté son support au projet Manhattan avant de se rétracter en demandant à Roosevelt de ne pas utiliser la bombe. Ah, est-ce qu'on se place pas dans une situation similaire lorsqu'on envisage la manipulation génétique du vivant avec une utilisation future des découvertes potentiellement hors du champ de contrôle scientifique?
De toute façon, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a, des points de vue différents qui sont possibles et je pense que même la distinction qu'on fait entre faire simplement de la recherche sur les embryons et puis modifier l'espèce humaine, déjà il y a une question qui dépasse, je pense, la seule compétence des scientifiques. Parce que certains scientifiques ont leur point de vue. Ils sont pas tous d'accord entre eux, mais ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où on touche à l'embryon, on touche à quelque chose qui dépasse complètement la seule dimension scientifique, et que cette dimension-là doit concerner toute la population.
On faisait l'analogie avec les OGM tout à l'heure.
Ah ben l'analogie avec les OGM, elle est directe. Il y a même un enjeu aussi aujourd'hui de savoir si les plantes qui sont génétiquement modifiées par CRISPR sont ou pas des OGM. Il y a des gens qui disent non. Ce ne sont plus des OGM. Et si on dit ce ne sont plus des OGM, sans rentrer dans les détails, ça veut dire que toute la régulation aujourd'hui en place en Europe pour contrôler les OGM n'est plus applicable. Donc c'est un vrai enjeu de savoir.
Pour vous, ce sont des OGM, Catherine Bourguin?
Pour moi, ce sont des OGM. Ouais. Comme bien sûr, ce sont des OGM. On a au sens de la régulation européenne, c'est de toute façon des OGM mot pour mot, puisque ce ne sont pas des organismes qui sont obtenus selon des méthodes naturelles. C'est la définition.
Pourtant, c'est ce qu'on nous fait croire. C'est ce qu'on nous dit.
Bah. En tout cas, c'est pas le cas.
Je suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas.
Pour terminer, Alain Fischer, 30 secondes.
Oui, donc c'est difficile. Non, ouais. Alors, je vais pas élaborer sur les OGM. C'est une question importante, mais pas tout à fait première. Je pense qu'il faut pas, en tous les cas, donner une réponse globalisante sur cette affaire. C'est une grande avancée scientifique. Il y a, si on est raisonnable, des promesses médicales sérieuses sur lesquelles il est légitime de travailler. On en verra les résultats dans les années. Là, je parle de médecine. Mm-hmm. Et par contre, l'aspect de l'embryon, naturellement, est une autre affaire et doit être regardé avec beaucoup plus de circonspection.
La voix de la sagesse. Alain Fischer pour la conclusion de ce dossier sur CRISPR-Cas9.
Merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus parce qu'on voyait bien que c'était quelque chose d'important et on en sait un peu plus grâce à vous. Merci beaucoup d'être venu dans La Tête au Carré. Bonjour Fabrice Rouel. Très vite, on est en retard, pardon.
Bon, l'assassinat du préfet Claude Erignac aujourd'hui avec notre invité, le juge Gilbert Thiel, qui est le juge qui a instruit l'affaire.
À tout à l'heure, merci.
À tout à l'heure.